Bonjour Tiffaine, et de notre côté nous lançons la machine à remonter le temps et à activer la nostalgie avec notre troisième volet consacré à la série Mad Men.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mad Men est une série télévisée créée par le scénariste Matthew Weiner qui eut à 35 ans et alors qu'il était un homme comblé dans le travail, en amour et avec ses quatre enfants, l'idée de décrire la terrible solitude des Américains des années 60, qu'ils soient célibataires ou qu'ils vivent en famille. C'était une nouvelle façon de faire de la télévision, pas très éloignée du cinéma, comme nous le disait lundi Emmanuel Burdeau dans une émission à retrouver en podcast. Hier, c'est le style et le design de la série qui nous a intéressés. Il a également été question des personnages principaux. C'était grâce à Nathalie Azoulay. Enfin, demain, nous évoquerons en première partie le rapport de la série à la ville de New York et les prémices de la société actuelle que l'on peut trouver dans cette histoire qui se passe donc dans les années 60. Nous évoquerons ensuite plus précisément la place des femmes au sein de cette fresque. Ce sera d'abord avec Fabiola Rocca, puis avec Romain Huret. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment des archives de Mad Men, nous sommes en compagnie d'Ariane Hudley, maître de conférence en études anglophones à l'université Paris 7 et qui revient justement des États-Unis où elle a pu travailler dans le fonds Mad Men à l'université d'Austin. Mais avant cela, un extrait de l'une des premières scènes du premier épisode de la première saison quand Don Draper parle de cigarettes avec le serveur noir qui lui apporte son whisky.
Monsieur a terminé.
Oui, vous auriez du feu ?
Vous fumez des Old Gold.
Moi, je fume des Lucky. Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce qui vous fait choisir les Old Gold ?
Pardon, monsieur, est-ce que Sam vous ennuie ? C'est une vraie pipelette, celui-là.
Non, merci, ça va. On discute, c'est tout. Ça pose un problème ?
Je vous en sers un autre ?
Oui, la même chose. Bourbon Old Fashioned. Vous devez avoir besoin de vous détendre après votre service.
Oui, c'est vrai. Je sais pas.
Mais qu'est-ce qui vous plaît dans les Old Gold ? Le fait qu'elles soient légères ? Le nouveau filtre ?
On les avait gratuitement à l'armée. Une cartouche par semaine.
Vous les fumez par habitude, alors ?
C'est ça. D'habitude.
Et je ne pourrais pas vous convaincre d'essayer une autre marque comme... Melloc ?
J'aime bien mes Old Gold.
Mais imaginez qu'apparaisse une bestiole. Une espèce de charançon du tabac qui grignote toutes les réserves d'Old Gold de la planète.
Ça serait ennuyeux.
Une vraie tragédie. Vous feriez quoi ? Vous arrêteriez ?
Non, je trouverais bien autre chose à fumer. J'adore fumer.
J'adore fumer, c'est très bon ça.
Ma femme déteste la cigarette. Elle a même lu que c'était mortel.
J'ai lu ça quelque part aussi.
Les femmes croient tout ce que racontent les magazines.
C'est vrai.
Bonjour Ariane Hudley.
Bonjour.
Vous vous souvenez bien entendu de cette scène, une des toutes premières de la série ?
La toute première, oui, après le premier générique, où on découvre Don Draper de dos, comme à la fin du générique, et on passe de l'image stylisée du générique à l'acteur dans ce bar enfumé. C'est une des premières choses que nous remarquons et qu'on remarquera beaucoup dans Mad Men, c'est que tout le monde fume. Et c'est cette discussion avec ce serveur noir, qui est le seul noir du bar. On le voit bien à la fin de la scène où on a une panoramique sur l'ensemble des clients qui sont tous blancs.
C'est une sorte de brasserie chic.
Oui, 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 c'est assez chic. Et tout le monde se ressemble, en fait. On a un panoramique sur tous les clients et on voit qu'ils ont tous à peu près le profil à la fois ethnique et social de Don Draper. Et donc, cette première conversation entre Don et ce serveur, On ne sait pas trop quoi en faire, en fait, rétrospectivement. Est-ce que cela pose la question de l'identité raciale comme au cœur de la série ? Ce que la série ne frappe pas tant que ça, finalement, notamment dans ses premières saisons. On l'a accusé, justement, de se concentrer exclusivement sur les problèmes des riches blancs. Et par la suite, elle essaiera d'intégrer un petit peu cette question des droits civiques, notamment dans la manière dont elle aborde les évolutions sociales et politiques des années 60. Et là, ce qu'on voit, c'est certes un Don Draper qui s'adresse presque d'égal à égal avec le serveur, au contraire du patron du bar, qui vient demander justement si le serveur ne l'importune pas. Mais c'est une discussion bien sûr extrêmement intéressée. Don Draper, comme souvent, nous est montré dans un processus de recherche d'inspiration, parce que c'est le créatif de l'agence de pub. Donc il essaye de trouver un slogan qui permettrait de continuer à vendre des cigarettes, alors que justement toutes les études médicales à cette époque commencent à montrer que c'est pas très bon pour la santé. Donc l'enjeu des publicitaires, c'est bien d'arriver à continuer à vendre un produit, sachant que ce produit fait mourir. Et donc, on le voit à la recherche d'idées. Bon, il trouve que I love smoking, j'adore fumer, c'est une très bonne idée.
C'est vrai que c'est simple, mais
c'est assez simple et efficace. Il en trouvera des plus originales par la suite.
Alors, est-ce que tout le monde peut s'identifier justement à ces personnages ? À qui est destinée, selon vous, cette série qui, vous venez de le dire, montre essentiellement des blancs et puis des blancs de la classe moyenne supérieure, voire supérieure. Est-ce que pour vous, c'est un public spécifique de cadre ou d'intellectuel qui est visé avec cette série-là, Ariane Hudley ?
C'est une bonne question parce que les personnages de Mad Men sont quand même assez détestables dans l'ensemble. C'est difficile d'en trouver un qui soit héroïque ou auquel on s'identifie véritablement parce que le sexisme, le racisme, l'homophobie sont omniprésents. On a beaucoup de choses qui aujourd'hui nous dérangent profondément. Beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies, un cynisme aussi qui est assez fort dans le milieu de la pub. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on se fait mal comme ça en regardant des histoires de personnages qu'on n'estime pas beaucoup. Une des réponses, bien sûr, c'est d'une part la fascination de regarder l'époque des années 60 à travers le prisme des années 2000 et de se dire, oh mon Dieu, voilà, un bar était complètement enfumé, oh mon Dieu, il faisait des déjeuners avec trois martinis, on touchait les fesses des secrétaires, voilà, il y a ce côté vraiment, c'était comme ça il y a si peu de temps finalement. C'est aussi une manière d'aborder les années 60 en revenant aux années 50, parce que quand on commence à regarder Mad Men lors des premières saisons, beaucoup des spectateurs disaient oui, ça se passe dans les années 50, parce que la représentation, notamment dans la première saison, nous rappelait énormément les années 50, beaucoup plus que l'image d'Épinal qu'on a des années 60, des idées révolutionnaires, des avancées sociales, politiques.
Mais on passe pas d'une décennie comme ça, d'une année à l'autre.
Voilà, c'est aussi ça que montre. C'est ça qui est intéressant, le processus d'évolution. Et ensuite, l'autre réponse, bien sûr, c'est le style. C'est le fait que cette série arrive à nous rendre ce monde totalement fascinant par le travail du style.
Mais alors, vous étiez venu nous parler ici de la série The Wire de David Simon. Vous disiez que c'était une série qui était à la frontière des sciences sociales, de la fiction, voire même du documentaire. Alors, vous allez nous raconter comment vous êtes allé dans les archives de Mad Men. Vous avez vu que c'était extrêmement documenté. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a là aussi une œuvre qui est à la frontière de ces genres-là ?
C'est assez difficile parce que ce que Mad Men nous montre, c'est certes une représentation extrêmement documentée des années 60. Dans les archives Mad Men au Harry Ransom Center de l'Université du Texas à Austin, il y a toute une partie sur les recherches qu'ils ont effectuées sur les années 60 pour faire une représentation aussi précise que possible de l'époque. C'est-à-dire, ils se sont renseignés sur les horaires d'ouverture des bars, sur l'adresse de tel restaurant, sur beaucoup de détails.
Mais même les horaires de lever et de coucher du soleil. Mais en quoi est-ce que ça peut vraiment rentrer dans le scénario, puisque il n'y a pas une vision comme ça au jour le jour. Donc, il n'y a pas tous les jours la mention de l'heure à laquelle le soleil se lève ou se couche.
Alors,
en quoi ça sert?
Je pense que les créateurs en avaient besoin pour créer une sorte de reconstitution crédible, de savoir si en sortant du bar à 19h30 à l'époque, est-ce qu'il aurait fait nuit, est-ce qu'il aurait fait jour. Bon, là je trouve que c'est poussé un petit peu à l'extrême, mais on voit cette ambition certes de documentation, mais on voit aussi que la recréation des années 60 se fonde énormément sur les représentations précédentes, c'est-à-dire que dans une représentation fictionnelle, montrer les années 60, c'est non seulement se renseigner sur ce qui passait à la télévision, des choses comme ça, mais c'est aussi s'inspirer de la manière dont ces années 60 ont été représentées. C'est pour ça que Mad Men est considéré comme une série cinématographique, parce que la série s'inspire énormément du style du cinéma hollywoodien de l'époque, notamment Alfred Hitchcock ou Douglas Sirk, par exemple.
Alors, est-ce qu'on est dans la représentation des années 60 ou est-ce qu'on est dans un pastiche du cinéma des années 60, Ariane Hudley?
Pour moi, le terme pastiche s'applique très très bien à Mad Men. Et je pense qu'il faut avoir conscience
un
de ça.
Un pastiche ironique, alors?
Non, pas ironique. Un pastiche explorateur, je dirais, qui ne se complaît pas simplement dans la recréation d'un style, mais qui explore un petit peu la manière dont on voit le passé aujourd'hui, dont ce passé est construit par un regard collectif, par des représentations précédentes, etc. Tout en ayant une ambition quand même historique, si on veut, ou historicisante, parce que Matthew Weiner et son équipe ont lu énormément de choses sur l'histoire des années 60. Ils ont lu des essais historiques, des essais sociologiques, pour des textes de l'époque, bien entendu, énormément, pour faire une représentation qui soit riche et qui soit pas simplement un pastiche un petit peu superficiel.
Mais est-ce que ça donne une vision du monde, un jugement sur ces années 60?
Là aussi, la question est un petit peu délicate, et c'est ce qui a nourri les débats par rapport à Mad Men. Mad Men a rencontré une adhésion très forte, mais c'est une série qui a aussi été critiquée par rapport à son approche idéologique, c'est-à-dire quel est le point de vue qui est adopté dans Mad Men. Est-ce que c'est un point de vue qui nous plonge dans une espèce de nostalgie en gommant justement tous les aspects problématiques, ou est-ce que c'est une approche qui est profondément ironique, critique? Moi, je pense que Mad Men est une œuvre très complexe et justement particulièrement intéressante, parce qu'elle ne nous donne pas toutes les clés d'interprétation, elle nous dérange très souvent, et je pense que c'est cette qualité dérangeante qui fait aussi son intérêt.
Mmh. Alors je ne résiste pas à l'envie de citer un certain nombre de recherches que doivent faire les personnes qui travaillent pour Matthew Weiner, par exemple. Comment se passe une opération de la cataracte en 1960 à l'E5 voilà. C'est bien de le savoir pour écrire un scénario, parce qu'il y a le personnage de Ida Blankenship qui se fait opérer de la cataracte, mais on ne voit pas l'opération. Hein.
Non.
Mais il faut quand même savoir comment elle va se faire opérer.
Ben, je pense que les romanciers, les scénaristes connaissent bien ce processus par lequel on a besoin de construire un monde. Et ensuite, ce qui apparaît à l'écran, ce qui apparaît dans le scénario, ce qui apparaît dans un roman, c'est la partie émergée de l'iceberg, bien sûr. Et pour donner une espèce de profondeur, de complexité à ce monde, les créateurs ont besoin de tout cet arrière-plan qui nourrit, en fait, leur création.
Et ça peut être aussi, par exemple, une connaissance très précise des entreprises sur lesquelles les créatifs de l'agence de publicité de Don Draper travaillent.
Oui, dans les archives, par exemple, il y a de très gros dossiers sur tous les contrats de Hilton, par exemple, qui est un des clients de Sterling Cooper à la fin de la série. Il y a les budgets publicitaires, par exemple. Et c'est vrai que là, c'était aussi pour rendre l'activité de l'agence de pub crédible, c'est-à-dire pas se tromper de quelques millions de dollars dans la manière de facturer les services d'une agence de publicité.
Même si les spectateurs ne l'auraient pas su, ne l'auraient pas vu.
Non.
Et finalement, comme le but de la série, c'est de parler de ce qui se passe dans les sentiments intimes, en fait, des personnages, on pourrait se dire que ça n'est pas très utile, mais ça l'est pourtant.
Je pense que ça l'est, et il ne faut pas oublier non plus aujourd'hui que les séries sont observées à la loupe par certains fans, et aussi par des universitaires, et par des historiens, notamment quand on regarde, quand on représente les années 60, on sait que les historiens vont aller chercher la petite bête et commenter, critiquer cette représentation, puisque les représentations fictionnelles, notamment par le biais des séries ou des films, participent du discours historique aujourd'hui, je pense. Well, early in the morning, about the break of day, I asked the Lord, help me find a way. Help me find a way,
find a way
to the promised land.
The promised land.
This lonely body needs a helping hand.
I ask the Lord
to help me, please find a way
when the new day is dawn. Alors, on a parlé déjà des archives, Ariane Hudley. Il faudrait mentionner d'abord une exposition, parce que c'est devenu un tel phénomène de société, Mad Men, qu'il en a été fait une exposition à New York en 2015, exactement au Museum of the Moving Image, voilà, le musée des images qui bougent, pour le traduire littéralement. Vous y êtes allé, évidemment, et qu'est-ce que vous y avez vu? On se balade sur des plateaux reconstitués de la série, on voit des objets. Qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition?
Alors, il y avait deux plateaux reconstitués, qui étaient la cuisine des Draper des premières saisons, et le bureau de Don Draper à partir de la saison 3 ou 4, je crois. Et c'était assez fascinant, en fait, de se retrouver comme sur le plateau avec le bon éclairage. Il y avait aussi beaucoup de costumes, parce que les costumes, bien entendu, ont contribué grandement au succès de la série. Il y avait une reconstitution de la writer's room, de la salle d'écriture de tous les scénaristes, avec une reconstitution du tableau où ils écrivent tous les arcs des personnages et les moments forts, les rythmes.
C'est-à-dire ce qui va arriver aux personnages sur plusieurs saisons ou sur toute la saison.
Voilà, c'est ça. Il y avait la bibliothèque de Matthew Weiner, où il avait regroupé tous les livres qui avaient nourri son imaginaire et ses recherches dans la préparation de Mad Men. Et il y avait énormément d'objets aussi, puisqu'on a un certain fétichisme des objets de l'époque dans Mad Men. Donc, des tasses, des meubles, des choses comme ça, qui nous replongent dans la matérialité de cette époque qui fait partie de l'intérêt de Mad Men. Et pas mal de textes aussi, c'est-à-dire, par exemple, une serviette sur laquelle Matthew Weiner avait écrit quelques idées, des exemples de scénarios, pour montrer là aussi le processus créatif de la série.
Alors, qu'est-ce que la visite, par exemple, de cette writer's room, cette pièce où les scénaristes se retrouvent pour imaginer la série et l'écrire, qu'est-ce que cette visite vous a fait comprendre du processus d'écriture?
Alors, elle a matérialisé quelque chose qu'on sait sur les séries américaines, qui est le processus collaboratif de l'écriture de séries. C'est-à-dire, certes, on a un auteur principal, qui est le showrunner, qui souvent a eu l'idée de la série. C'est le cas de Matthew Weiner, qui a eu l'idée de la série quand il était encore à travailler sur Les Sopranos. Mais c'est un phénomène éminemment collaboratif, et le showrunner est quelqu'un qui sait manager une équipe et qui sait stimuler la créativité et sélectionner, bien sûr, les bonnes personnes pour écrire ensemble une histoire complexe. Et c'est ce qui ressortait un petit peu de la writer's room, et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans certains documentaires qui ont été réalisés récemment sur les showrunners, sur les processus d'écriture, qui est quelque chose qui m'intéresse particulièrement pour les séries.
Alors, concrètement, qui écrit quoi? Comment ça se passe? Comment on décide de faire en sorte que tel personnage ait telle évolution ou telle autre?
Alors, ça dépend à quel stade de la série, mais le showrunner en général est celui qui écrit la Bible de la série, c'est-à-dire ce qui trace les directions principales de la série, éventuellement sur plusieurs saisons. Il est souvent celui qui écrit le scénario du pilote aussi, pour le soumettre à une chaîne, pour que la série soit acceptée. Ensuite, vient le moment du pitch, c'est-à-dire où on écoute un petit peu toutes les idées qui émanent des différents scénaristes. On sélectionne celles qui paraissent intéressantes, celles qui semblent... Donc, il y a un vrai travail d'élaboration collaborative. Et souvent, par la suite, chaque épisode est écrit par un scénariste distinct. C'est ce qui était le cas aussi, par exemple, sur The Wire. Et le showrunner, notamment dans le cas de Matthew Weiner, qui est quelqu'un qui contrôle énormément l'écriture de sa série, passe derrière, réécrit, reprend et suggère d'autres choses au scénariste d'un épisode spécifique.
Et ensuite, on le tourne, on l'envoie à la chaîne, et la chaîne peut aussi apporter des modifications qui ne sont pas forcément mauvaises. C'est ce que vous disiez, ça dépend des cas.
Oui, les rushs sont envoyés peut-être plus à la production qu'à la chaîne. Pour le cas de Mad Men, la production, c'est Lionsgate. Et la chaîne, c'était AMC. Et les producteurs, les cadres de la production envoient leurs réactions, disent « c'est magnifique, mais peut-être qu'on pourrait choisir tel angle plutôt que tel autre ». Et c'est vrai que quelquefois, il me semblait que ces échanges entre la production et les créateurs étaient assez assez bénéfique, alors que Matthew Weiner est assez critique de l'industrie télévisuelle en général dans ses interviews. Et il me semblait que les remarques qui étaient faites par les cadres de la production étaient souvent assez intéressantes.
Alors après, vous êtes allé donc regarder cette bibliothèque de Matthew Weiner et vous y avez vu un certain nombre de livres, par exemple Gatsby le Magnifique. C'est un peu Gatsby, Don Draper aussi.
Alors Gatsby le Magnifique, c'est bien sûr un personnage qui influence énormément d'œuvres de la littérature du cinéma et des séries américaines depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a ce côté rêve américain dans Gatsby. Gatsby est un personnage qui se réinvente, qui change d'identité, qui trouve une sorte de nouvelle identité très clinquante, qui est aussi bien sûr ce que fait Don Draper. C'est l'idée de base de la première saison, cette idée que n'importe qui a le droit à une nouvelle vie, a le droit à se réinventer une nouvelle identité.
À oublier son passé.
À oublier son passé et à être la pièce dans laquelle il se trouve. C'est ce que Bert Cooper dit au moment où on lui révèle que Don Draper n'est pas qui il prétendait être. Il dit, ça m'est égal, il y a un dicton chinois ou japonais, je ne sais plus, qui dit que voilà, ce qui compte, c'est là où on est, ici et maintenant. Et c'est ça qui compte. Et c'est l'idée du rêve américain comme ouverture, comme ne pas être limité par ses origines.
Il y a aussi Revolutionary Road de Richard Yates, qui a été adapté en film. Peut-être certains de nos auditeurs l'ont vu sous le titre Les Noces Rebelles. Et c'est l'histoire de ce couple qui ne veut pas vivre comme les autres, mais qui se retrouve comme aspiré par le conformisme. Là encore, qu'est-ce qu'il y a de Mad Men dans ce livre ?
Il y a énormément de proximité entre Revolutionary Road et Mad Men, avec cette peinture de la vie de banlieue qui est celle de la vie domestique de Don Draper au début de la série quand il est avec Betty. Et cette idée de conformisme absolu qui est parfaitement étouffant à la fois pour l'homme et pour la femme, avec ce modèle de famille américain, avec deux enfants, une fille, un garçon, un jardin, une belle palissade blanche. Un garage pour deux voitures. Et on voit la limite, bien sûr, de ce cliché qui fait partie, là aussi, d'une forme de rêve américain. Et c'est ce qui a aussi mené pas mal d'études féministes sur, justement, le malaise de ces femmes qui se retrouvaient coincées dans ce cliché de la vie domestique. Notamment, par exemple, le livre de Betty Friedan.
Qui fait aussi partie de la bibliothèque en question.
Qui fait aussi partie de la bibliothèque de Matthew Weiner, The Feminine Mystique. Qui est un texte phare de la deuxième vague de féminisme sortie en 1963 et qui a profondément influencé Matthew Weiner dans sa représentation de Betty Draper, qui a le même prénom que Betty Friedan.
Alors ça, c'est pour l'exposition. Et puis, les archives, c'est encore autre chose parce que c'est la première fois qu'une série télévisée entre dans une université prestigieuse comme l'université du Texas qui héberge déjà des archives d'écrivains extrêmement célèbres comme Graham Greene, Poe, Garcia Marquez, Arthur Miller. Donc ça signifie que Matthew Weiner accède à un niveau de reconnaissance par l'université qui est tout à fait inégalé.
Oui, il y a sans aucun doute une dimension de légitimation de la forme. C'est la première série récente à avoir une archive complète de cette manière-là. Il y a des bouts d'archives d'anciennes séries dans certaines institutions ici et là, mais pas une archive aussi bien constituée et surtout qui entre dans une institution prestigieuse aussi rapidement après la fin de la série.
Qu'est-ce que ça signifie du statut d'auteur aujourd'hui de quelqu'un comme Matthew Weiner et comme d'autres showrunners ?
Eh ben, ça les installe, tout comme votre émission, sur la même lignée que des grands auteurs littéraires ou des grands auteurs de cinéma. Il y a aussi les archives Selznick, par exemple, au centre de l'Université du Texas. Et ça pose, bien entendu, l'idée que derrière une série, on a un imaginaire, une personnalité. Au-delà de cette collaboration collective dont je parlais, il y a avant tout l'idée d'un homme.
Il y a aussi la partie audiovisuelle dans ces archives. Et là, vous avez regarder pendant plusieurs jours des rushs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous en retenez en particulier?
Oui, il faisait 42 degrés à Austin, donc j'étais contente d'être dans un endroit climatisé. Et oui, ça prend énormément de temps et c'est assez passionnant de voir toutes les prises qui ont été faites pour chaque scène. On pourrait y passer des milliers d'heures, hein, c'est très très long. Mais ça nous donne un aperçu de ce qui se passait sur le plateau, du choix d'angle de caméra, des hésitations, des acteurs aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir les choix qui ont été faits finalement lors du montage et tout ce que le montage apporte, puisque là encore, la série est profondément cinématographique. Donc la sensation un petit peu théâtrale que l'on peut avoir devant les rushs disparaît, s'évapore lorsque l'on re-regarde finalement l'épisode.
Alors vous avez travaillé sur différentes prises, notamment de la scène Belle Jolie, dont on reparlera juste après la chronique que voici. C'est en compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et aujourd'hui en compagnie de Maïalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Maïalène.
Bonjour.
Vous avez regardé la nouvelle série de Mathieu Wiener, Les Romanov, qui met en scène différentes personnes disant descendre du dernier tsar de Russie.
Oui, absolument. Alors la série a une très très belle photo, très très bien réalisée. Pour le scénario, c'est un peu plus inégal. J'espère vraiment,
surtout
vraiment,
le premier épisode, qui est absolument terrible.
Le premier épisode est terrible. C'est un peu un Tati Daniel qui aurait vraiment encore vraiment très très mal tourné.
Qui sonnerait faux.
Ouais, qui sonne très très faux. Mais moi j'espère vraiment, je crois dans le dernier épisode de la saison qui serait choral et qui ferait sens et qu'en fait toute la saison n'aurait été écrite que pour ça. J'y crois
très, que c'est de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes.
On espère, vraiment.
Alors de quoi ça parle?
Alors, donc ça parle, donc en fait toute la saison est basée sur le fait que à chaque épisode on voit des membres de différentes familles qui croient tous descendre des Romanov qui ont donc été assassinés en 18. Donc, ça reprend cette idée du mythe du roi caché qu'on trouve dans tout un tas de pays. Et c'est un thème qui est assez ancien. En fait, les premiers exemples de rois cachés et donc de gens qui disent « Non, mais en fait, Bidule était mort, mais en fait, c'est moi », ça arrive dès le Moyen-Âge et en littérature aussi. Par exemple, je me demande si Shakespeare, quand il écrit Richard III et qu'il met le jeune Édouard V et son frère, qui sont connus sous le nom des princes de la Tour de Londres, qui étaient dans la tour et qui un jour ont disparu, il les fait apparaître et puis après il les fait apparaître sous la forme de fantômes. Et on est moins d'un siècle après que quelqu'un ait été pendu pour avoir dit « Et au fait, le prince Richard, c'est moi ». Donc je pense que c'est une manière de réaffirmer la mort de l'héritier à un moment où finalement personne n'est encore trop trop sûr. En France, on a le fils de Louis XVI, donc Louis XVII, qui occupe à peu près le même rôle. En 1800, il y a un roman gothique qui s'appelle « Le cimetière de la Madeleine », qui est un espèce de best-seller du début du XIXe siècle. Et donc, il explique comment le fils de Louis XVI aurait été sorti de sa prison. Et ce roman-là a inspiré tout un tas de gens qui, à l'époque, disaient qu'ils étaient Louis XVII. Sous la Restauration, Regnault Varin, l'auteur, a dit qu'il avait écrit n'importe quoi, parce que bon, il voulait pas avoir d'ennui non plus. Mais ça a vraiment beaucoup marché, alors que la pièce de Marcel Morette, qui a inspiré à peu près toutes les adaptations d'Anastasia que vous pouvez imaginer au XXe siècle, elle est née aussi parce qu'on avait Anna Anderson qui disait au même moment « Je suis Anastasia ». Donc c'est l'inverse, c'est parce qu'il y avait des usurpateurs que cette pièce a été écrite.
Alors est-ce que la manière dont on parle d'un héritier perdu change, Maïalène, selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille ?
Du tout au tout, je ne vais pas vous lister la quantité industrielle de romans d'amour qui impliquent l'une ou l'autre des filles de Nicolas II, qui sont coincées dans leur maison Ipatiev avec un garçon plus ou moins pauvre qui passait par là, qui les aime et qui les sauve. Il y en a plein. C'est aussi une question d'âge, parce qu'on n'imagine pas trop Louis XVII vivant 10 ans dans sa prison, draguant sa geôlière pour se faire sortir.
Non.
Non. Mais d'une certaine manière, quand c'est des filles, on fait comme si c'était pas des héritières, comme si leur mort n'était pas politique. Alors que bon, surtout dans le cas de la Russie, c'est quand même un pays avec pas mal d'impératrices qui savent gouverner. En France, le fils de Louis XVI, c'est plutôt un modèle d'enfant martyr. Et c'est plus la question de l'emprisonnement qui intéresse les écrivains. Chandernagor a écrit La Chambre. Donner a aussi écrit un roman sur cette question. Et donc la question de la survie, Et à plus forte raison, la question des descendants de ces gens qui disent « je suis l'héritier », elle est assez absente.
Et alors justement, dans la série de Matthew Weiner, les Romanov, qu'en est-il de ces héritiers usurpateurs ?
Eh ben, dans le premier épisode, alors moi je me demande si c'est les auteurs qui n'ont pas fait attention ou si en fait ils essayent de voir si les spectateurs suivent, parce que la méchante Tati Daniel qui dit qu'elle descend des Romanov, elle explique que son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui est un fils de Paul Ier, il a ramené un œuf Fabergé de Russie. Donc pour ceux qui auraient suivi, Paul Ier est mort en 1801, les œufs Fabergé c'est pas avant 1885, donc vraiment il faudrait qu'il ait été très très vieux. Donc c'est le genre de cas où je me dis, est-ce que vraiment ils écrivent très très subtilement ou est-ce qu'ils n'ont pas du tout fait attention ?
Ouais,
je m'interroge.
D'autant plus qu'on sait que Matthew Weiner fait très attention en général à ce genre de détails. Merci beaucoup Maïalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire, à très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous parlons jusqu'à jeudi de la série Mad Men de Matthew Weiner avec mon invité Ariane Hudley. Et pour repartir dans cette seconde partie, voici la scène de la publicité Belle Jolie, donc comme prévu, avec les secrétaires de l'agence qui essayent des rouges à lèvres et les publicitaires qui les observent derrière une glace sans teint.
Settle down.
What, no lunch?
No, dear, this is better. Belle Jolie wants us to tell them what we think about their...
Belle Jolie veut notre avis sur leur prochaine collection de rouge à lèvres.
J'adore les miroirs sans teint, mais le nom n'est pas très vendeur. On devrait appeler ça des miroirs espions.
Appelle ça comme tu veux, c'est encore mieux que les lunettes qui déshabillent.
Ça s'appelle du brainstorming.
C'est un peu intimidant. C'est une sorte de test.
Sauf qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Soyez vous-même, mes jolies. Chacune va prendre un bâton de rouge à lèvres et va s'asseoir devant un miroir.
Super.
Et n'oubliez pas, votre miroir est votre meilleur allié et aussi votre pire ennemi.
Aucun goût. Une robe affreuse. Ah, c'est une horreur, cette perruque.
Elles vont en avoir des idées brillantes.
Ah ben, si elles se blessent pas avec, ce sera déjà bien.
Chouette, j'adore quand elles font ça. Mon petit poisson rouge.
Ça vous embête si j'enlève mon pantalon?
Moi, j'adore cette couleur.
Combien avez-vous de rouge à lèvres?
J'en sais rien, beaucoup, je ne les ai jamais comptés.
En assortissez-vous la couleur à votre tenue ou à vos accessoires?
Je sais, ça ressemble à une question piège.
Non, ce n'est en rien une question piège. Épargnez-nous vos commentaires.
Il m'arrive de la sortir à mon vernis à ongles.
Excellente réponse. Continuez.
Changez-vous de rouge à lèvres en fonction des saisons? Allez fumer plus loin.
À quel moment on envoie du courant électrique dans leur fauteuil?
On aurait dû laisser un homme avec elle pour qu'elle prenne ça au sérieux.
Que retenez-vous de cette scène, Ariane Hudley?
Alors là encore, une scène assez pénible à regarder.
Surtout en français, mais enfin, sur le fond, elle est pénible
à écouter,
aussi.
Là, en français, oui. Sur le fond, elle est pénible et en même temps, elle est fascinante par la mise en scène du regard. C'est ça un petit peu qui manque à la radio. C'est que ces femmes, ces secrétaires arrivent toutes excitées dans une salle qui, au fond de laquelle se trouve un grand miroir. Et devant chacune d'entre elles se trouve aussi un petit miroir. Donc elles sont vraiment confrontées à leur image constamment. De l'autre côté du grand miroir se trouvent les cadres de Sterling Cooper et les créatifs qui les observent pour trouver des idées, pour développer une publicité pour ces rouges à lèvres belles jolies. Et on a entendu bien sûr toutes les remarques sexistes. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est bien sûr la manière dont ça cristallise les différences de regard masculin et féminin. Et ça nous rappelle tout un discours, notamment féministe, sur le cinéma, comme celui qui a été théorisé par l'universitaire britannique Laura Mulvey, qui a travaillé sur ce regard essentiellement masculin dans le cinéma classique. Et elle a expliqué que dans les films hollywoodiens classiques, en général, la femme était l'objet du regard, tandis que le détenteur du regard était toujours masculin. Et elle a montré aussi que le corps de la femme en général était morcelé, découpé en morceaux. Il y a une dimension un petit peu de torture qu'on retrouve ici quand l'un des observateurs masculins derrière le miroir dit « quand est-ce qu'on fait passer l'électricité dans les chaises ?»
Ce sont des cobayes aussi.
Ce sont bien sûr des cobayes. Et donc il y a vraiment une mise en scène intéressante avec aussi, bien sûr, un intérêt narratif qui est le personnage de Peggy, qui est à ce moment-là la secrétaire, qui va se distinguer des autres. C'est la seule qui n'observe pas son reflet, tandis qu'elle utilise un rouge à lèvres, mais elle observe les autres. Mmh. Elle regarde les autres et la mise en scène reflète bien cela avec un mouvement panoramique qui part de son regard, qui est ralenti. Tout à coup, il y a un ralenti haute définition qui nous montre justement tous ces visages, les mouchoirs qui ont été utilisés pour estomper le rouge à lèvres aussi qui tombe, qui vole un petit peu jusque dans la poubelle. Et c'est à partir de cela qu'elle va avoir une idée qui va lui permettre de sortir de son rôle de secrétaire et de devenir une créative, il n'y a pas vraiment de terme en français.
Concepteur-rédacteur.
Conceptrice-rédactrice pour l'agence de pub par la suite.
Donc le regard est présent des hommes vers les femmes, ça vous l'expliquez bien, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux de regard, d'autres types de regard dans la série ?
Vous voulez dire entre les différents personnages dans cette scène-là ou dans la série en général ?
De manière générale, et je pensais en particulier au regard qu'on porte sur la télévision, par exemple.
Oui, alors notre regard à nous, c'est vrai qu'il est souvent double quand on regarde Mad Men, parce qu'on a le regard qui simplement suit l'action, qui suit la fiction. Et en même temps, on a ce regard scrutateur sur les années 60, parce qu'on revoit certaines choses qu'on a déjà vues par ailleurs. C'est-à-dire que dans Mad Men, la grande histoire apparaît en arrière-plan de cette histoire fictionnelle des personnages. C'est-à-dire on va avoir les émeutes raciales dans les années 60, on va avoir la mort de Marilyn Monroe, la mort de Kennedy aussi. Et ces événements de la grande histoire que nous connaissons, pour les avoir vus représentés par des images, nous apparaissent comme doubles parce que l'on voit qu'à l'époque, on ne disposait pas forcément des mêmes images que nous rétrospectivement. C'est particulièrement le cas, bien sûr, dans l'épisode sur la mort de Kennedy, dans la saison 3 ou 2.
Voilà. C'est l'épisode The Grown-Ups.
Voilà, l'épisode The Grown-Ups, je crois que c'est dans la saison 2. On ne voit, pour nous, la mort de Kennedy, c'est le film de Abraham Zapruder, où on voit littéralement la tête de Kennedy explorée, film qui a été utilisé, réutilisé dans de nombreuses fictions aussi par la suite, donc on le connaît un petit peu par cœur. Or, quand on voit la mort de Kennedy dans l'épisode, on voit ce qui passe à la télévision à l'époque, et c'est la télévision qui relie les différents personnages, mais on ne voit jamais ces images qui, pour nous, sont restées associées à la mort de Kennedy, puisqu'elles n'étaient pas disponibles, bien entendu, sur le moment. Ce n'était pas l'époque des images en direct.
Donc c'est un clin d'œil aux spectateurs de 2015, enfin celui qui regarde l'épisode au moment où il passe et qui a du coup une culture de l'image qui n'est pas la culture de l'image forcément des années 60.
Oui, je pense que Mad Men interroge beaucoup notre relation aux images et qu'il nous fait prendre conscience justement de cette différence de regard entre les années 60 et aujourd'hui, notamment dans la manière dont c'est filmé. Mad Men refuse toutes les coupes assez rapides ou les caméras à l'épaule, par exemple, et choisit un style assez ancré historiquement dans les années 60. Et par le biais de la représentation d'événements historiques, la série nous fait comprendre aussi de la différence de relation que nous avons aux images d'actualité aujourd'hui par rapport aux années 60. Why do the birds go on singing?
pas s'arrêter d'écouter cette chanson qui achève justement l'épisode de la mort de Kennedy. Vous vous êtes un peu spécialisé d'ailleurs sur ces chansons qui terminent les épisodes de toutes les saisons de Mad Men. Et cette chanson-là, elle n'est évidemment pas choisie au hasard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi Matthew Weiner a utilisé cette chanson et pas une autre?
Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une ballade, une chanson qui semble être une chanson d'amour, hein, qui dit pourquoi est-ce que le soleil continue à briller, est-ce que les oiseaux continuent à chanter alors que tu ne m'aimes plus, qui était une chanson en fait écrite par Skeeter Davis, qui est une chanson de deuil en fait à l'époque. Et je pense que ça fait le lien entre ce qu'on a dans l'épisode qui s'appelle The Grown Ups, donc qui est l'épisode 12 de la saison 3.
C'était donc la saison 3,
qui est l'épisode qui est structuré autour de la mort de Kennedy, mais qui amène aussi une sorte de perte d'innocence dans les histoires personnelles des personnages, notamment la fin du mariage entre Don et Betty, qui est un tournant dans la série. Et donc c'est le moment de cette perte, et ça donne aussi une lumière intéressante sur le titre de l'épisode, qui est The Grown Ups. On se demande un petit peu pourquoi, ça veut dire les adultes. Et cette réflexion sur la perte de l'innocence, tout à coup le moment où l'Amérique passe dans l'âge adulte, en quelque sorte, et passe à un autre stade de son histoire.
Donc il y a sans cesse ce va-et-vient entre la grande histoire et l'histoire personnelle, une forme d'écho qui est très travaillée.
Très travaillée, oui, il y a souvent cet écho entre les événements historiques et ce qui se passe dans la vie des personnages. On pense par exemple à alors bon là c'est pas vraiment historique, mais c'est la mort de Marilyn, qui la dualité Marilyn-Jackie Kennedy, qui aussi reflète un petit peu l'identité de certains personnages féminins dans la série. Et on pense aussi bien sûr à toutes ces avancées politiques sur les droits des femmes, sur les droits des minorités, qui font profondément évoluer les personnages, notamment Peggy, qui est le personnage qui évolue le plus du début à la fin de la série.
Tu sais aussi peut-être pour expliquer comment il y a un nouvel arrivant dans la famille américaine, qui est la télévision, et qu'on commence à regarder le monde et sa vie personnelle aussi, alors qu'on est influencé par des images qui avant ne nous arrivaient pas de cette manière-là.
Oui, c'est vrai que si Mad Men a été décrite comme cinématographique, elle nous parle aussi énormément du médium auquel elle appartient, qui est la télévision. On voit notamment que les enfants Draper passent leur temps devant la télévision, donc sont élevés à la télévision. Et on voit aussi que la télévision crée des liens. C'est le cas au moment de la mort de Kennedy, bien sûr, où le montage est structuré autour de ces passages d'une télévision à l'autre, qui font le passage entre les différents personnages. C'est le cas aussi, bien entendu, en 1969, avec l'alunissage, qui là aussi fait le lien entre les différents personnages.
On peut revenir un tout petit peu à l'assassinat de Kennedy, parce qu'il y a un autre moment dans la même saison où, pour une publicité, pour une laque, Peggy et Don parlent d'un scénario de publicité qui ressemble beaucoup à l'assassinat de Kennedy. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que la série matérialise notre imaginaire de l'événement auparavant. C'est-à-dire, on est dans le bureau de Don Draper et on est en train de pitcher cette publicité pour une laque pour cheveux. Et on a quatre personnes dans une décapotable qui sont assises sur quatre chaises pour symboliser la décapotable. Et on imagine que les deux personnes à l'arrière, il y en a une dont les cheveux sont complètement en désordre parce qu'elle n'avait pas la bonne laque, et l'autre qui est assise à l'arrière sur le siège droit a ses cheveux totalement désordonnés à cause du vent. Et bien entendu, la mise en scène, l'angle de la caméra nous rappellent ce que l'on a vu de l'assassinat de Kennedy dans le film de Zapruder. Et c'est rappelé à la fin de l'épisode de la mort de Kennedy, parce que Don Draper, ne sachant pas trop quoi faire dans son environnement domestique en miettes, retourne au bureau le soir de l'enterrement de Kennedy. Il retrouve Peggy qui est en train de travailler sur les storyboards de cette pub et qui se rend compte que c'est un petit peu problématique d'envisager un spot de pub où justement il y a quatre personnes dans une décapotable avec l'une qui a ses cheveux un petit peu défaits, et elle dit c'est pas grave, le tournage n'est pas prévu avant Noël, donc tout le monde aura oublié d'ici là, il y aura plus d'écho.
Et donc, tourner en anglais, c'est to shoot.
Et bien sûr, il y a toute l'ambiguïté du terme to shoot qui nous rappelle aussi que Kennedy s'est fait assassiner alors que lui-même était en train de se mettre en scène, le fait qu'il était en train de traverser Dallas dans cette décapotable, bien sûr, c'était une auto-mise en scène. Kennedy était le roi de sa propre mise en scène. C'est le premier qui a su utiliser la télévision dans sa campagne. On sait que les personnes qui ont regardé le débat entre Kennedy et Nixon à la télévision ont trouvé Kennedy plus convaincant, tandis que ceux qui l'ont écouté à la radio ont trouvé que c'était Nixon. Donc il y a toute une réflexion, bien entendu, sur notre rapport au monde, notre rapport à l'histoire à travers les images.
Donc vous avez, je le disais, travaillé sur ces génériques de fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, de manière générale, sur l'utilisation des musiques par Matthew Weiner et son équipe à la fin des épisodes, et puis ensuite on rentrera dans un ou deux exemples si on a le temps.
Alors oui, c'est frappant dans Mad Men, chaque épisode se termine par un morceau de musique spécifique, ce qui était déjà le cas des Sopranos. On voit que son expérience sur les Sopranos l'a conduit à reprendre un petit peu la même technique, qui n'était pas très utilisée à l'époque, qui l'est beaucoup plus aujourd'hui. C'est ce qu'on a dans The Handmaid's Tale, dans Big Little Lies aussi, par exemple. Et le choix de chaque morceau est extrêmement précis et nous permet, en fin d'épisode, d'adopter d'ores et déjà un regard un peu rétrospectif sur l'épisode qui s'achève. Et c'est une manière aussi d'éviter le passage obligé du générique de fin, qu'en général, on zappe à la télévision. C'est-à-dire encore le générique de début, quelquefois il est original, etc. Souvent, le générique de fin, on le zappe pour regarder l'épisode suivant ou pour éteindre la télévision, tout simplement. Et là, ils ont trouvé cette technique qui fait que non, on s'attarde, on a envie d'écouter cette chanson. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le générique est plus court que le morceau en général. Donc on reste aussi sur sa fin. À la fin du générique, on a envie d'aller chercher un disque ou de mettre Deezer par la suite pour continuer ce morceau qui lui aussi est resté en suspens.
Alors la fin de la saison 1 s'achève par exemple par cette chanson de Bob Dylan.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right.
C'est tout de même une première saison qui s'achève avec un prix Nobel de littérature. C'est dire à quel point c'est une série littéraire, Ariane Hudley.
Oui, on est en plein dans les grands auteurs. Cette fin de saison 1 est très intéressante parce que déjà c'est une petite entorse à la chronologie. C'est-à-dire que la chanson de Bob Dylan date, je crois, de 62-63, alors que la première saison est censée se passer en 1960. Et ensuite, ça reflète la dualité de la fin de cette saison, puisque c'est le moment où Don Draper vient de faire un pitch monumental à Kodak.
Le fameux carousel dont on a déjà parlé voilà, dans cette série d'émissions.
En se complaisant dans les images de sa famille, alors que par ailleurs il trompe sa femme et éhontément. Et il rentre chez lui et il espère trouver sa famille avant pour pouvoir partir tous ensemble pour Thanksgiving. Et on a deux fins. Au départ, dans le scénario, il devait retrouver sa famille, s'embrasser, partir ensemble. Et là encore, la Lionsgate, la production, a dit à Matthew Weiner, est-ce que tu crois pas que c'est un petit peu trop positif, comme ça, finir la première saison là-dessus? En plus, ça rappelait la fin de la première saison des Sopranos, où on a comme ça une scène de famille assez chaleureuse. Et du coup, il a choisi d'avoir deux fins. C'est-à-dire qu'on commence avec Don Draper qui rentre, qui retrouve sa famille, et puis il y a une sorte de décrescendo, et on le retrouve dans la même situation, mais il rentre et la maison est vide. Et il s'assoit sur cet escalier qui est un lieu très important dans la mise en scène de Mad Men.
Qui est une référence à Hitchcock.
Qui est une référence à Hitchcock, qui représente aussi un petit peu son inconscient, puisque c'est le lieu où il a des flashbacks de son enfance. Et il s'assoit sur les escaliers, on a un léger décadrage de la caméra, et cette chanson commence. Et dans cette chanson, il y a ce refrain « Don't think twice, it's alright », n'y réfléchis pas trop, les choses, ça va aller. Qui est quelque chose qui dit beaucoup à sa femme en l'infantilisant beaucoup. D'ailleurs, il dit « t'inquiète pas, tout va aller très bien ». Et cette idée de « don't think twice », c'est intéressant puisqu'en anglais, on dit « n'y réfléchis pas à deux fois ». Or, on a justement deux fins. Donc en tant que spectateur, on est obligé d'y réfléchir à deux fins, à deux fois, pardon. Quelle est la bonne fin? Qu'est-ce qu'on choisit finalement? Pour moi, il me semble qu'il n'y a aucun doute en finissant sur cet espace vide. On sait très bien que Don Draper finit seul.
Oui. Et alors, on est avec Bob Dylan, mais on a peut-être commencé la saison du côté de Sinatra. Et là, il y a déjà le passage des années 50 aux années 60 qu'on entend hein, avec la bande originale, Ariane Hudley.
Oui. Même la musique qu'on entendait sur la première scène que vous avez passée tout à l'heure était une chanson typique des années 40 ou 50, un petit peu jazzy. Et en effet, on a ce passage, c'est une journaliste américaine qui a dit que les deux premières saisons de Mad Men étaient les années Sinatra et qu'ensuite on passait aux années Bob Dylan, et on a clairement cette évolution vers une contre-culture un petit peu plus prégnante. Et d'ailleurs, Sinatra apparaissait presque en filigrane dans l'épisode 6 qui s'appelle Babylone de la première saison, où on avait une scène dans un club de Greenwich Village, qui est un club justement où Bob Dylan s'était produit dans les années 60. Donc on voit ce mouvement qui échappe par ailleurs à Don Draper. Don Draper, il a du mal à comprendre le rock et la contre-culture.
Et il ne comprend pas les Beatles. On va faire comme Don Draper, Ariane Hudley, on va pas l'écouter en entier cette chanson parce que Don Draper, il n'aime pas les Beatles, voilà, il ne comprend rien à cette musique qui arrive, alors que pourtant Don Draper c'est quelqu'un qui va au cinéma tout le temps, qui s'y connaît logiquement en culture de tous horizons puisque c'est son métier d'être à la pointe de ce que la société aime.
À l'affût, oui, et c'est vrai que là il y a des choses qui lui échappent, comme à la fin de cet épisode qui est une des plus belles conclusions d'épisode je trouve dans Mad Men. Depuis le début, il cherche une musique qui ressemble aux Beatles pour une campagne de pub. Et sa jeune épouse, Megan, lui dit « Voilà, il faut que tu écoutes les Beatles ». Elle connaît, elle est plus jeune, elle est dans ce mouvement-là. Et à la fin, elle lui donne donc le vinyle de Revolver. Et elle lui dit « Tu devrais écouter cette plage-là ». Et il met « Tomorrow Never Knows », qui dure quelques secondes. Il l'arrête, il s'en va. Et c'est seulement après 2 secondes de noir total avant que le générique commence que la série nous donne la suite de Tomorrow Never Knows. Et c'est un moment très intéressant justement parce que ça marque d'une part la déconnexion de Don Draper avec justement une certaine évolution
lui aussi vieilli.
De la culture. Lui aussi vieillit, on le voit très bien d'ailleurs entre la première et la dernière saison, il a vraiment pas le même aspect. Et ensuite, ça joue aussi avec nos propres attentes, c'est-à-dire que ça joue sur le plaisir de la série, il me semble, qui est cette interruption et cette reprise, et ça nous fait prendre conscience du plaisir sériel qui est vraiment au cœur de Mad Men aussi. Ça joue bien sûr aussi sur l'évolution de la musique, le côté très psychédélique. Ils ont pas choisi, ils ont pas choisi une plage un petit peu plus sage de l'album.
C'est la chanson la plus expérimentale de cet album-là.
Typiquement, elle a été considérée comme l'ancêtre de la techno. C'est lié avec à la prise de LSD qu'on voit aussi dans la série quelques épisodes auparavant. Les paroles sont tirées du livre des morts tibétain. Donc c'est un morceau hautement expérimental qui nous plonge justement dans ces nouvelles contrées des années 60.
Alors nous, on l'a pas passé en entier parce que ça coûte trop cher aussi de passer les Beatles. Mais les Mad Men, eux, ils ont réussi à acheter les droits pour passer cette chanson en entier. C'est assez exceptionnel d'ailleurs.
250 000 dollars, ouais, ils ont mis le paquet, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils la reprennent après au générique, pour rentabiliser un petit peu la chose. Et c'est assez ironique aussi parce qu'au début, l'agence Sterling Cooper dit well, « nous, de toute façon, on n'aura jamais les moyens de se payer les Beatles ». Et c'est aussi un petit pied de nez qui est fait en fin d'épisode en disant « ah oui, nous, on a maintenant les moyens de se payer les Beatles ».
Alors ces fins d'épisode Ariane Hudley, elles sont soit des fondues au noir, soit des cuts au noir. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous a retenu, vous avez essayé d'observer pourquoi l'une ou l'autre de ces options a été utilisée.
Oui, parce que ça crée un rythme différent, ce qui marque aussi de nombreuses fins d'épisodes, c'est un ralentissement. C'est-à-dire que c'est un peu des anti-cliffhangers. Souvent, les fins d'épisodes dans les séries traditionnelles, c'est ce sentiment de suspense, où on est laissé vraiment au point culminant de la tension. Là, au contraire, dans Mad Men, ça s'étire. C'est-à-dire que c'est un moment où les choses se ralentissent. On a souvent justement ce mouvement de caméra, de décadrage, avec un panoramique vers la droite ou vers la gauche, qui laisse les personnages de côté et qui se concentrent sur un espace vide. Mmh. Et c'est aussi quelque chose, il me semble, oui, qui fait partie de l'identité de Mad Men. Est-ce qu'on ait un fondu au noir ou un cut au noir, là aussi, ça se finit plutôt dans une transition fluide ou dans quelque chose qui nous secoue un petit peu plus.
La lenteur, la forme hypnotique de Mad Men, elle signifie au spectateur que c'est à lui de s'emparer de la série et de réfléchir lui-même.
Oui, c'est une série exigeante qui demande une participation active des spectateurs, qui demande de la patience aussi et qui se pose clairement à l'opposé de certaines séries qui jouent justement sur la montre, sur le rythme très très haletant à la manière à son époque de 24 heures chrono par exemple. Oui.
Merci beaucoup Ariane Hudley. Je rappelle que vous êtes donc intervenu dans le séminaire politique d'une série L'Amérique de Mad Men, dont la captation peut être visionnée en ligne sur Vimeo. On vous doit également le livre The Wire, les règles du jeu, paru au PUF en 2016. Vous étiez d'ailleurs venu nous en parler au cours d'une série d'émissions toujours disponibles en podcast. Cette émission a été rendue possible grâce aux contributions de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Malonda, Stéphanie Vélin et Nicolas Delmas. Demain, un regard plus philosophique et sociologique aussi. Nous parlerons postmodernité et place des femmes dans Mad Men. Ce sera avec Fabiola Rocca et avec Romain Huret. Mais tout de suite, eh bien, c'est Jacques Bonafé et ses lectures de poésie.
Bonjour, bonjour à tous. La poésie de Cécile Coulon se présente parfois comme une chanson parlée. Point de ces chansons d'automne chères à Verlaine ou à Gainsbourg, plus une chanson d'Auvergne, chère à Vialatte. La surface, poème pour ceux qui ont mal. Dans ces moments où tu cesses de tourner avec le monde, quand tu ne comprends pas que les autres ne puissent pas comprendre, que tu es blessé, que tu es cassé, qu'il y a dans ta tête la voix insupportable du passé qui répète « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit » dans ces moments où tu ne peux pas aller plus loin que la porte de ta chambre, où ta colère est une valise pleine, impossible à fermer, quand tu sautes sur ton cœur pour qu'il cesse d'aboyer. Les autres ne comprennent pas, non, ils ne comprennent pas que c'est comme être puni après un long voyage, qu'on t'a renvoyé, qu'on t'a humilié. Les autres ne peuvent pas faire autrement que de te prendre dans leurs bras en murmurant « ça va aller ». L'amour est un naufrage et la voix du passé s'agace. « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté. Ne t'inquiète pas, tu auras longtemps mal. Ça peut prendre une semaine, un mois ou une année, jusqu'à ce que le prochain bateau passe. Ne t'inquiète pas, il faudra du temps avant que tu puisses enfin remonter à la surface. » Dans ces moments où tu te demandes si tu as mérité cette plaie grande ouverte qui bat comme un tambour, quand tu ne sais plus si tu détestes ou non d'y avoir cru, personne ne devrait s'en vouloir d'avoir cru en l'amour. C'est un enfant farceur, c'est un mauvais joueur qui est parti avec les meilleures cartes et la voix du passé dans ton corps tout entier, brisé de larmes et de fatigue, qui répète « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté. Ne t'inquiète pas, il faut que tu apprennes à vivre de nouveau, à retrouver ta place, ta tristesse est un enclos ouvert. Il faudra du temps, mais un jour, tu sauras comment remonter à la surface. Il n'y a pas de justice en amour, il n'y a pas de victime, de coupable, seulement des corps tendus, des promesses murmurées, des ronds de sueur sur vos deux oreillers. Il n'y a pas de route nationale qui permette de contourner les pires moments. Il n'y a pas de bourreau, de responsable, il n'y a pas de passion plus respectable que celle d'aimer. Tu voudrais croire que ça ne recommencera pas, que tu as vécu assez. Il n'y a pas d'expérience en amour, seulement des tremblements soudains et des sourires navrés et des valises fermées. Ton cœur n'a pas manqué d'audace, il n'y a pas de chance sacrée, seulement le souvenir des bouches qui s'embrassent, il ne faudra pas les oublier. La vie ne se tait pas, il faudra l'écouter si tu veux remonter bientôt à la surface. Après ces émotions, s'il vous plaît, interlude. Ce visage endormi que tes yeux éclaboussent de ce bleu si profond où la nuit je ramasse ce qu'il faut de trajet de tes lèvres à ma bouche pour pouvoir le matin s'arrêter, se suspendre au bord du temps qui passe, comme deux grands oiseaux alourdis par la pluie font sécher au soleil leurs plumes d'oreiller.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des textes de Cécile Coulon.